Bonjour à toutes et à tous, bonjour Vanessa.
Bonjour Tiffany.
Alors on se retrouve pour un ma préférence spécial Retour Théâtre 2022 avec toi et avec Chloé.
Chloé.
Elle est où
Chloé? Ah bon
Chloé.
Chloé, t'es où?
Ah,
ah mais elle est au téléphone.
Ah, on m'a pas prévenu aussi, on me prévient pas. Eh ben alors Chloé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas là?
Alors je suis pas avec vous parce que je prépare un spectacle pour les tout petits, pour la comédie de la Roseraie. Et je me fais aider par François Orgeol, un régisseur hors pair de Toulouse, qui est avec moi à Toulouse, donc j'ai pas pu me déplacer, je suis désolée.
En fait t'es à fond dans le théâtre, hein. On le
ah
sait.
Ouais, là,
là, oui.
Ah oui, je m'arrête jamais moi. Alors on parle de ce qu'on a vu en 2022, c'est ça?
Exactement,
c'est ça.
Alors bon, il y a plein de choses qu'on a vues. D'ailleurs, je disais à Vanessa que j'avais du mal à me souvenir de tout parce qu'il y a plein de choses qui m'ont touchée. Et alors, arriver à me souvenir en précisément, mais j'ai réussi à faire quand même un petit choix de trois pièces. La première, ça va être... j'ai parlé des pièces dont je connais un peu les gens pour qui ont travaillé pour ça. La pièce Elle. J'ai vu au Théâtre du Pavé. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui,
vous.
Moi je suis allée la voir aussi. Oui,
moi aussi.
Ah ben, parfait, comme ça on va parler en connaissance de cause toutes les trois. Donc c'est une pièce qui a été écrite par Muriel Darras, une comédienne que j'affectionne particulièrement depuis pas mal d'années.
Ah bon, c'est vrai?
Et dont je suis son travail depuis que j'ai 14 ans précisément.
Ah oui.
Je l'avais rencontrée au Sorano justement et elle jouait dans sa troupe Le Grenier de Toulouse et j'avais une affiche d'elle dans ma chambre quand j'étais plus jeune et maintenant je la connais, je la côtoie et j'ai même joué avec elle donc je vais voir son travail et cette pièce là m'a beaucoup beaucoup touchée. Elle est jouée par une comédienne qui s'appelle Joanne Guillet ça a été joué au Théâtre du Pavé cette année en 2022, du coup plutôt l'année dernière maintenant, et j'ai été très touchée. Donc elle parle de transidentité en le vrai sujet, c'est ça, mais j'ai trouvé, on en avait parlé avec Muriel, que justement en fait ça traitait plus largement de tout l'adolescence, le passage à l'adolescence, le changement de corps, le changement de vie, enfin tout ce qui nous arrive à ce moment-là de la vie et en fait et la relation avec les autres à ce moment-là qui est souvent un peu difficile, qu'on soit un peu rond, qu'on soit qu'on ait une couleur de cheveux différente, qu'on vienne d'ailleurs, que il y a toujours une excuse pour être au centre de l'attention et être un petit peu parfois ridiculisé, moqué, tout ça. Et donc c'est vrai que là c'est la transidentité, mais moi qui ne suis pas transgenre, je me suis quand même reconnue dans ce personnage de Louis qui devient elle, et ça m'a vraiment touchée, quoi, le côté ne pas se sentir vraiment à l'aise dans le corps qu'on nous a donné à la naissance et être un petit peu être peu accepté par les gens autour de soi, ne pas s'accepter soi-même même, et puis tout ce travail qu'on fait pour en arriver à sortir de tout ça et à aller mieux avec le temps. Je sais pas si ça vous a parlé dans ce sens-là, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ça.
Si, il y a ce passage, justement, ce que tu dis, hein, ce passage où on se découvre, où on cherche, on essaye de savoir qui on est vraiment, quelles sont nos aspirations, tout ça, et puis le regard des autres, qui est très bien mis en avant, donc...
Exactement. Donc, on croit tous qu'on est bizarre, on croit tous qu'on est différent, et en fait... on se cache, il y en a qui arrivent à se cacher mieux que d'autres et à faire vraiment croire qu'ils sont comme tout le monde, mais il n'y a pas de comme tout le monde et on est tous justement différents, mais c'est ça qui est précieux et sauf qu'à l'adolescence, on n'en a pas forcément conscience et on croit qu'il faut cacher nos différences et nos bizarreries, entre guillemets.
Non. Pas
alors qu'en
tout.
Fait, c'est ce qui fait notre force, mais ça, on l'apprend malheureusement souvent un peu plus tard.
C'est ça, ça fait vraiment la force, quoi, la différence.
Voilà, du coup j'ai beaucoup aimé ce spectacle et je l'ai trouvé très bien joué par Joanne Guillet qui n'est a priori pas transgenre mais qui m'a vraiment fait douter parce que je trouve qu'elle joue très très bien et c'est à un moment donné, je me suis vraiment demandé si elle l'était. Et je sais qu'il y a tout un sujet en ce moment sur, voilà, est-ce qu'une quelqu'un qui n'est pas transgenre peut jouer un personnage transgenre et tout.
Oui, on en avait parlé.
Et moi, elle m'a convaincue, donc voilà, c'est j'ai trouvé ça très beau. Ensuite, le deuxième, alors j'en parle souvent parce que je l'ai vraiment aimé, je vous avais invité à aller le voir, et je crois qu'il se joue encore de temps en temps au Studio 55.
Attends, tu vas trop vite, là.
Ah, je vais trop vite.
Il faut le deuxième de Tiffen.
Ah, pardon. Enfin,
le troisième. Non, le troisième premier, de Tiffen.
Ah, du coup, je parle pas de elle, parce que le elle, il est en...
Ah,
il est
si, tu peux en parler, si tu l'as aussi.
Tu l'avais mis aussi?
Oui, moi, je l'ai, ah ouais. Oui, moi, je
elle
l'ai
l'a
vu.
Mis aussi.
Bah, écoute, c'est marrant qu'on se soit pas croisés, parce qu'on est toutes allées le voir. Bah, écoute, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est vrai que moi, bah, c'est pas vraiment ce qui m'a touchée en premier lieu, mais il y a d'autres choses que j'ai beaucoup aimées. C'est vrai que... Bah, parler de transidentité, toutes ces choses-là, j'étais assez attentive à comment ça avait été mis en scène. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé le jeu de la comédienne. Je trouve qu'elle elle arrivait vraiment à faire passer les émotions, en fait, du personnage. Et ça, c'est que pour le coup, j'ai été touchée aussi. Bah, je ne me suis pas vraiment sentie concernée parce que bon, voilà, ce n'est pas trop mon parcours. Mais par contre, j'ai vraiment été touchée par l'émotion que ça transmettait, et j'ai adoré comment elle s'est appropriée la scène et les décors, parce qu'elle montait sur le banc, elle escaladait ça, ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment la comédienne, elle s'est vraiment, bon, c'est le travail de comédien, mais là j'ai vraiment senti que c'était elle, en fait, qu'elle était le personnage. On avait l'impression
que c'était son histoire. J'ai trouvé ça troublant parce que je me suis demandé...
Ouais, c'est ça, je comprends. Moi aussi, je me suis posé la question, mais c'est...
Alors que moi, je la connais, et je sais bien que non, mais...
Mmh. Mais je crois que j'avais posé la question après un petit peu. Non, mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qui se sont appuyés sur... Elle s'est appuyée sur des témoignages, Marielle Darras, pour écrire...
Oui, parce que oui, elle travaille auprès de d'ados. Elle donne des cours à des ados, et il y a beaucoup d'ados qui font des coming out en ce moment, qui se confient à elle, parce que c'est une femme, mais enfin, assez exceptionnelle. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est très humble, elle est touchante, et elle est très à l'écoute, et elle ne juge pas. Donc, je comprends que ces petits élèves viennent la voir pour lui parler de tout ça, et elle a eu envie d'en faire un spectacle, puisqu'elle s'est retrouvée l'oreille de jeunes comme ça, et ça lui a donné envie de parler d'eux. Elle m'avait raconté ça.
Et voilà, ça c'était mon deuxième.
Non, on parle de trois pièces, donc. Moi, ma troisième, je l'ai fait découvrir. Alors, Chloé, t'es déjà au courant, hein, ce qui est une des trois pièces qui m'a touchée cette année, c'est En ce temps-là, l'amour, avec David Brécourt.
Ah oui.
et on avait eu la chance, d'ailleurs, de le recevoir dans nos studios. Qui viennent nous faire un petit coucou, et on l'a eu, il nous a fait le plaisir d'être avec nous, de répondre à nos questions et de parler de cette pièce. D'ailleurs, on va l'écouter.
Ça donne vraiment envie de la voir.
Bonjour à tous, nous sommes réunis pour ma préférence spéciale théâtre, parce que c'est le retour 2022. Bonjour Chloé.
Bonjour Vanessa.
Alors, le théâtre, c'est toute ta partie, toi?
Oui, bah c'est vrai que c'est une passion depuis que je suis petite, donc j'aime beaucoup en parler, et j'aime beaucoup rencontrer des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un de spécial.
Ah bon, c'est vrai?
Oui,
tu peux nous le présenter?
Il est à côté de nous.
Spécial.
Et oui.
Je suis quelqu'un de spécial, alors.
On a l'honneur d'avoir David Brécourt.
Bonjour.
Bonjour, David.
Bonjour.
Spécial, c'est un bon terme, hein, dans mon sens.
Mais oui, non, j'aime bien qu'on je le prends comme ça. Hein.
Un grand comédien qui connaît le théâtre, qui les foule depuis pas mal d'années.
Mm-hmm.
Ça a commencé à 12 ans, je crois.
Ouais. J'ai démarré à 12 ans, grâce à mes parents qui étaient comédiens, et mon père travaillait comme metteur en scène assez réputé à l'époque, Et voilà, j'ai cherché un petit garçon de 12 ans pour jouer dans une pièce de Monterland. Et puis j'ai passé les auditions et j'ai été pris. Et en fait, tout est parti de là.
Ah, c'était une pièce avec des adultes alors?
Ah ouais, et puis des acteurs
professionnels.
Au Théâtre des Mathurins, c'était une pièce qui s'appelait La vie de l'ombre, c'était un enfant. Oui, c'était pas.
C'était du costaud. C'était directement. Hein. C'était pas la MJC de Castanet-Toulousain comme moi.
Et puis j'ai joué un an. Non, je sais pas, mais en tout cas, c'était. Oui, c'était du lourd, quoi, pour commencer.
D'accord, ah ouais.
Ouais. Et d'ailleurs, j'y pensais encore ce matin, je me disais que j'ai eu de la chance de commencer avec des gens qui m'ont appris la rigueur, la discipline, l'amour de mon métier. Il y en a de moins en moins maintenant, mais on passe à autre chose, et donc je suis content d'avoir qu'on m'ait inculqué ça, c'est toutes ces valeurs-là.
Alors on fait un retour théâtre 2022, et en 2022, il y a une pièce alors, qui était déjà au Festival d'Avignon, en 2021,
ouais.
Puisqu'elle avait reçu le prix du meilleur spectacle,
ouais,
au Festival Off d'Avignon. Et tu y es retournée cette année, en 2022, avec, ouais, En ce temps-là, l'amour.
Ouais.
Une pièce choc, bouleversante.
Ouais. Seul en scène, puisque c'est la première fois que je... Ça fait longtemps que j'avais envie de jouer tout seul. Et on m'en a donné l'opportunité. Enfin, c'est Christophe Gant, mon metteur en scène, qui est venu me voir quand je jouais autre chose en 2018 au Buffon. Et il m'a apporté un texte en me disant, est-ce que t'as envie de jouer tout seul, est-ce que tu veux bien lire le texte. Et je l'ai lu en une heure, j'ai été très ému, et je l'ai rappelé, je l'ai revu tout de suite, et je lui ai dit ok, je le fais, quoi. Donc on a travaillé pendant un an, parce que c'est long, c'est 90 pages, c'est du costaud.
Oui, à apprendre par cœur, ça doit être quelque chose.
Mais tellement, tellement palpitant et tellement génial.
Un devoir de mémoire.
Voilà, ouais. Devoir de mémoire. J'en suis à la, d'ailleurs, le 27 janvier, je joue au Mémorial de la Shoah à Paris. Et ce sera la 200e. Donc je l'aurai joué 200 fois, donc c'est chouette, quoi. Trois Avignons, et puis des tournées, et puis Paris. J'ai joué au Petit Mathurin, je l'ai joué au Gymnase. Et puis l'aventure n'est peut-être pas finie encore, il y a encore de la place.
Bah oui, parce que t'es pas venu nous voir à Toulouse.
Donc non,
mais
bah,
c'est vrai qu'on a
un petit souci.
Je ne demande que ça.
Et d'ailleurs, j'ai vu un interview de vous qui disait que c'est un texte qui est appris dans les écoles maintenant, qui est au programme scolaire.
Oui, de certaines.
Dans certaines écoles,
écoles, oui, pour les troisième, seconde, où ils travaillent sur le texte, parce que ils sont sur l'histoire. Dans l'histoire, surtout en 39-45, la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça fait partie du programme.
C'est super, voilà. On peut avoir la pièce pour les petits, voilà, les élèves de Toulouse. Ça pourrait
c'est bien. Ce que je dis à chaque fois au public le soir. Je dis toujours un mot après avoir joué ça. Et non seulement je prends mon pied en jouant ce merveilleux texte, mais en plus, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Donc ça fait double effet, et ça c'est génial.
Oui, parce que c'est une sacrée transmission quand même. Hein.
Ah c'est la transmission fort, d'un grand-père avec son fils, et c'est la transmission d'une histoire qui raconte d'un père avec son fils dans un train qui part à Auschwitz. Donc en fait il y a une double transmission. Et le texte est magnifiquement écrit en cette journée. C'est très fort, surtout qu'on sait que la fin est inéluctable et qu'on sait que ils vont mourir à la fin de ce voyage, et on est dans la même thématique que La vie est belle de Benigni, c'est exactement la même chose. C'est un peu le même sujet, voilà, un père qui a 7 jours pour éduquer son fils, lui donner toutes les clés de la vie et toutes les philosophies de la vie, parce qu'on parle de Spinoza, on parle après on parle de la liberté, de l'amour, de la mort, voilà, donc il parle de tout ça. Donc j'interprète tous les personnages, et c'est à chaque fois je ressors de scène rassasié. C'est un peu le mot, quoi.
J'imagine un peu de sa bulle après avoir joué un texte pareil aussi fort, et seul en plus. Je sais quand le public est avec nous dans ces moments-là, moi j'ai jamais fait de seul en scène, mais ça doit être quand même particulier. Il doit y avoir un sas de redescente.
Ah oui, il faut, là, dans ce spectacle, il me faut une heure pour redescendre. Ouais. Mais en même temps, jouer tout seul, ce qui est génial, c'est une espèce de liberté que je connaissais pas, ça. Mm. Et ça, alors, l'accouchement est très difficile, parce que les premières, deuxième, troisième, c'est vraiment très dur. C'est beaucoup de trac, beaucoup d'angoisse. Mais une fois que tout est mis en place, qu'on trouve de l'aisance, et tout d'un coup, il y a une espèce de liberté qui arrive. où bah, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, de toute façon, oui, allons-y, quoi. Et puis, avec le public, je prends mon temps, je prends plus de temps, je prends moins de temps, je fais ce que je veux, je manage le public comme je veux. Non, c'est une expérience incroyable, incroyable.
Ça donne envie d'essayer. Ouais. Mais avec un texte pareil, il faut en trouver un aussi quand même.
Il y en a des textes comme ça.
Quand on te confie cette mission, de passer cette transmission justement aux plus jeunes et à nous aussi, qu'est-ce que ça te fait ?
Ça me fait, il y a plusieurs, je dirais presque plusieurs anecdotes parce que j'ai mes filles qui ont 24, j'ai des jumelles qui ont 24 ans et qui ont eu un grand-père qui a été à Auschwitz pendant 2 ans et demi, qui a fait 2 marches de la mort. Et donc j'ai été un peu baigné là-dedans. J'ai demandé à mon ex-femme de porter le numéro de son père sur scène. Donc on a fait faire un tampon spécial et que je me mets sur l'avant-bras avant de monter sur scène. Là c'est de l'encre hein, parce qu'à l'époque c'était
gravé,
on appelait ça le tatoueur d'Auschwitz, il y avait un film dessus. Ça devait pas faire du bien quand on le faisait là, bon, mais j'ai l'impression de me témoigner quelque chose, de le faire revivre quelque part. Et voilà, j'ai un petit garçon de 6 ans aussi et ça m'a aidé aussi à... Peut-être qu'il y a une époque de ma vie où, avec mes filles, j'ai pas eu beaucoup de temps de m'occuper d'elles parce que je travaillais beaucoup. Et même maintenant aussi, mais je prends plus de temps avec mon fils pour lui transmettre des choses.
Peut-être parce que... Ça s'appelle Mathurin, non ? C'est ça, j'ai entendu, par rapport au théâtre des Mathurins.
Voilà. je me dis, voilà, j'ai le temps. Ce sera le dernier hein, enfant, j'en ai 4. Mais là, voilà, on est armé à 57 ans, j'ai peut-être plus de patience et plus l'envie de transmettre quelque chose. Donc tout ça est lié entre le spectacle, ma vie, et il n'y a pas de hasard, quoi. Ça vient comme ça, quoi.
De toute façon, à n'importe quel âge, notre papa, il nous transmet des choses tant qu'il est encore là. Oui. Donc même si elles ont 24 ans,
vous leur mais encore, aussi. Encore faut-il trouver les bons mots.
Oui.
Voilà, chose que peut-être que plus jeune, j'y arrivais pas, ou j'avais pas le temps, ou je... maintenant, j'essaye de vraiment exactement de trouver les bons mots, quoi. Mais ça demande un peu de maturité. Je pense qu'on acquiert un peu de maturité à mon âge, à 57 ans, c'est bien. C'est le moment, quoi.
Bon, j'espère en tout cas qu'on va pouvoir voir cette pièce. Hein,
oui, ça donne vraiment.
On va aller voir les théâtres à Toulouse et
non,
faire en sorte...
on partira à Paris ou à Avignon.
Ouais.
Avignon, c'est fini. Ici. Je ne le referai pas l'année prochaine. J'aurai une autre pièce, mais pas... c'est Avignon, je l'ai fait 3 ans. C'est bien de laisser respirer aussi un peu, mais on m'a dit pourquoi pas revenir l'année prochaine. Voilà, mais laisser un an tranquille. Et étant donné que je joue un grand-père et que je suis plutôt, même si dans ma vie, je suis grand-père déjà depuis longtemps, depuis 12 ans.
Ah oui.
Et je j'ai pas forcément encore la tête d'un grand-père, mais c'est pour ça que j'ai cette pièce, peut-être que je la jouerai encore dans 20 ans. Et plus je la jouerai, plus j'aurai l'âge du rôle. Ouais, donc c'est assez marrant, quoi.
Mais c'est un rôle qu'on peut jouer pendant longtemps,
bah oui.
Contrairement à certains rôles où les jeunes premiers, dépasser un certain âge, on dit non, c'est plus la peine.
Alors il faut que je vienne le jouer, parce que c'est vrai que dans tout le coin, je l'ai pas joué. Puis il y a eu surtout le Covid, beaucoup de reports à ce moment-là.
Peut-être grâce à la pièce que vous venez donc mettre en scène ici, là, à Toulouse aujourd'hui.
Le jeu de la vérité.
Le jeu de la vérité, au Casino Barrière, oui.
Vous aurez peut-être des contacts de salles. On en a aussi, on va.
Bon,
on va faire en sorte, oui.
avec grand plaisir. Avec vraiment grand plaisir.
Donc, le jeu de la vérité qui se joue ce soir, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a.
Mais oui, c'était un hasard, c'est ce qu'on s'est dit, parce que normalement, on devait se faire ça par téléphone de Paris. Et en fait, je regarde mon agenda et je me dis, enfin, c'est décidé ça il y a 3 jours, et je vois que je dis, le 11, je suis à Toulouse. C'est quand même énorme, quoi.
Parfait.
Voilà, donc ça tombait bien. Et donc ce soir, ça, c'est une mise en scène du jeu que j'ai joué, moi, il y a 18 ans. On a fait un gros, gros succès avec ça, avec Philippe Lelouch et Christian Vadim.
Ah oui, je m'en
souviens. Vanessa Demouy à l'époque. Et on est passé là, d'ailleurs, on l'a joué ici.
Oui, tout à fait, ouais. J'étais là, je l'ai vue, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai passé
mille fois,
un excellent moment.
Nous, on l'a joué 1000 fois, à peu près.
C'était au Casino Barrière aussi, ou c'était ailleurs ?
Non,
c'était pas au Casino
Barrière, je sais plus où c'était.
Pas au Capitole non plus.
On l'a joué à Blagnac.
Oui,
Ouais, ça, Odyssude. Ouais. Odyssude,
ouais. Je crois que c'est ça.
Ouais. Ah ouais.
C'était ça, Odyssude, ouais. Je sais pas, on l'a pas joué au Capitole. Je crois qu'il y avait déjà plus de théâtre au Capitole. Je sais plus, mais je crois que c'est Odyssude, ouais. Ouais, c'est ça. On a joué toutes nos pièces, là, d'ailleurs.
Ah oui, oui, oui. Non, mais ouais. Moi, de manière, quand je l'ai vu, j'ai fait, ah non, je peux pas louper cette pièce.
Donc toi, Vanessa, tu vas voir une nouvelle version avec des nouveaux acteurs.
Oui, je vais voir une nouvelle version.
Ouais.
Voilà, ce soir, j'irai.
Donc, c'est la jeunesse. Que vous mettez en scène.
Ouais.
C'est une première mise en scène ou vous en avez fait déjà?
Non, j'en ai déjà fait une autre, il y a 6-7 ans. Et puis j'en ai une autre, là, on me propose autre chose là, pour septembre. Et j'ai envie de... c'est passionnant.
C'est encore une autre casquette, la mise en scène.
Ah, mais ça me passionne. C'est passionnant. Là, c'est des jeunes qu'il faut tenir. Parce que c'est... Voilà, j'essaye de leur inculquer aussi la technique. Qu'ils n'ont pas forcément... J'essaye de trouver les bons mots aussi, et de les encourager et qu'ils soient bien, quoi, parce que c'est
facile à se détacher de quand on l'a joué le rôle, surtout la personne qui joue le rôle qu'on a joué pendant des années, d'arriver à se détacher pour adapter le rôle à cette personne-là et plus à soi et plus à ce qu'on faisait.
Oui, complètement, oui. Ouais. Non, puis Clément Moreau qui joue mon personnage est très bien, vraiment, je trouve autre chose, quoi. Je trouve d'autres mots. C'est passionnant, quoi. Et c'est une comédie où on rit beaucoup. Donc,
on passe un excellent moment.
C'est beaucoup de technique, quoi. La comédie, c'est attendre que les rires retombent pour pouvoir continuer à parler. Sinon, on n'entend pas le texte. Il y a des phrases qui sont imparables, donc il faut pas les rater, les effets. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut aussi laisser respirer le public qui rit beaucoup, mais il y a aussi de l'émotion dans le spectacle, parce qu'il y a quand même une sacrée surprise dans l'écriture. Enfin, il se passe quand même quelque chose d'assez dingue au bout de 20 minutes. Donc c'est de leur dire tout ça, quoi. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite, savourez, et puis essayez de sentir le public. Et surtout garder du rythme, c'est surtout ça, quoi.
Mais nous, en tout cas, on a savouré ce moment avec toi ici dans les studios.
Mais pareil, avec grand plaisir.
On aura encore 1000 questions, mais il faut.
Ah, on pourrait parler pendant des heures.
Laisser repartir, travailler. Ouais. Peut-être que vous allez faire une.
On va te réinviter.
Non, il n'y a pas de réponse. Non, et ça fait. Là, c'est la quatrième ce soir parce qu'ils sont. On était à Deauville dimanche.
Ils sont rodés, quoi.
On a bien répété avant. Là, ils sont. Même s'il y a un remplacement, il y a un garçon qui remplace Alexandre Bierry, qui est formidable d'ailleurs, qui s'appelait Julien Crampon, magnifique. Et donc il y a Sam Lelouch, super, Sam, Julien, Clément et Emma Smet. Voilà.
Et on a hâte de découvrir ces...
On a hâte de voir ça.
Tu vas aller voir ce soir, du coup.
Et que tu viennes avec En sautant là l'amour à Toulouse,
voilà.
Où j'en démarre pas.
Allez,
on va faire en sorte, on va croiser
faire le tour
les
de Toulouse
doigts
avec la pièce.
Voilà.
Ou les environs.
Merci beaucoup, David.
Merci Chloé, merci Vanessa. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ah bien.
Je suis d'accord avec toi, Chloé. Ça donne vraiment envie de la revoir pour ma part. Mais c'est vrai que ça donne vraiment très, très envie de la faire venir à Toulouse. Voilà.
Pour Toulouse.
Ouais, ouais.
Donc, on va essayer de les faire venir, oui.
On y travaille.
Je passe à ma deuxième.
Oui, passe à ta deuxième.
Alors, donc, j'avais commencé un peu. C'est donc une pièce qui se joue encore au Studio 55. Parfois, je ne connais pas les dates encore, mais je vous en parlerai peut-être.
Attends. On va faire l'intermède musical.
D'accord, je m'entends.
Tu t'entends ou pas ?
Ouais.
Bon, après tout ça, après toutes ces explications sur ces deux pièces, puisque du coup, il y en a deux,
oui,
vu
coup,
que vous aviez le même choix, on va partir... sur une pause musicale, et c'est Shelly-Anne qui nous l'a choisie. Shelly, qu'est-ce que tu nous as choisi pour la première pause musicale ?
Oui, alors je ne suis pas trop allée au théâtre, donc j'ai essayé quand même de prendre des choses en rapport avec le théâtre. Et là, on a parlé de François Ozon, il n'y a pas longtemps à la radio, et il y a un film de François Ozon que j'adore, 8 femmes.
Ah oui.
Qui est, en fait, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, donc on a toujours ce petit rapport au théâtre. Et donc, on va écouter l'une des musiques de 8 femmes.
Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours.
Bah c'est malin, Shelly, tu m'as donné envie de revoir 8 femmes. C'est super malin. Bien joué, Shelly.
Hey, mais franchement, Shelly.
Alors, la deuxième. Ta deuxième, Chloé.
Alors, ma deuxième pièce. C'est donc Ulysse le retour. J'en ai parlé souvent. Oui. Elle se joue encore au Studio 55 de temps en temps. Et c'est vrai que j'en ai parlé souvent parce que j'ai vraiment adoré. Je l'ai vue 2 fois. Et au Studio 55, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est encore mieux parce qu'ils ont même ajouté un écran géant. Enfin, l'écran est déjà présent au Studio 55 et ils ont mis des décors en fond grâce à cet écran. Et donc, j'en ai parlé avec des gens qui l'ont vu au Studio 55, ils m'ont dit que ça a ajouté encore. Donc, c'est une parodie des aventures d'Ulysse à 3 comédiens. Il y a Laurent Berthier, Julie Safon et Sylvain Borins. Et c'est hyper drôle, ça m'a fait penser un peu à c'est assez cartoonesque, un dessin animé on dirait. Et c'est donc il y a une voix qui fait la narratrice, et Julie qui a une voix assez particulière, très belle, très suave. Et il joue plusieurs personnages, tous. Ils sont que 3 pour jouer toute l'aventure d'Ulysse, donc je vous laisse imaginer ce que ça donne. Ils sont complètement barrés.
Ouais, ça me fait envie. À chaque fois que tu m'en parles, ça donne envie.
Il
faut
que je trouve du temps entre
le
cinéma, les festivals pour aller la voir.
Ah ouais, là,
oui. Là, je vous conseille. Donc voilà, ça c'était ma deuxième.
Bah, moi du coup, ma deuxième c'était elle, donc je vais dire ma troisième, c'était Georges Sand, Confidence de la Dame de Nohant. Alors elle a été jouée en tout début d'année 2022 au Théâtre de la Violette, c'est un tout petit théâtre qui est à Bordeaux Rouge. J'avais été voir avec des amis, donc il a été écrit et interprété par Rosa Ruiz et mis en scène par Enrique Fiestas. Et en fait, c'est un seul en scène sur la vie de Georges Sand. Et c'est un truc... Ouais, et c'est... Ouais, et
j'adore.
C'est... Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la mise en scène, bah, c'est que déjà, il y a un côté très intimiste parce que c'est un tout petit théâtre. Et il n'y avait pas vraiment de projecteur, c'était l'éclairage, c'était avec une chandelle, une lampe à pétrole, c'était très intime. Et on la voit, pareil, elle se déplaçait pas mal sur le décor, donc on la voyait écrire une lettre parce qu'elle avait une correspondance. Et c'était vraiment chouette, on entre un peu dans sa tête. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants aussi qui venaient, donc il y avait un vrai côté familial. Donc ça, pour le coup, c'était une jolie surprise, pour le coup.
Ah, ça donne envie, j'ai pas vu du tout. C'était dans quel théâtre ?
C'était le Théâtre de la Violette.
Théâtre de la Violette,
ouais,
d'accord.
C'est à Bordeaux Rouge.
Et la comédienne qui jouait ça ou le
C'était Rosa Ruiz, c'était elle qui avait écrit aussi la pièce. C'est comme un énorme monologue. Alors, j'ai pas énormément de souvenirs parce que...
C'est un seul en scène, en fait.
C'est un seul en scène, ouais.
Ah, ça doit être fort.
Ouais. Moi, ça me donne envie, d'autant plus que j'en parlais avec ma fille de Georges Sand. Parce qu'elle me parlait des écrivains, des poètes et tout, et moi je lui ai dit lis Georges Sand, donc et elle me dit mais encore un homme, je dis non.
Et non justement, c'est ça qui est intéressant.
Non, justement lis, parce que sa prof lui a proposé des poètes, mais que des garçons. Donc j'ai dit lis Georges Sand, puis elle m'a regardé, puis elle me dit mais non maman, je t'avais demandé une fille. Bah justement. Donc c'est ça qui est beau. Non mais j'aime beaucoup, en tout cas ça donne très très envie
pour le coup.
Eh ben,
là, j'imagine qu'on sort de ce genre de spectacle en se sentant un peu plus instruite aussi. Comme dans les biopics,
y a un côté ludique,
quand on va voir un biopic.
Ça. Ouais, ouais. Il y a un côté ludique. Ouais, exactement.
Bah ouais, ouais. On a appris quelque chose sur la vie de quelqu'un qui a existé, quoi.
C'est ça.
C'est clair.
C'est vraiment comme si on remontait le temps, comme on allait à son époque, on était dans chez elle, et voilà, qu'elle nous montrait un peu d'elle, quoi. Parce qu'il y a un peu de ça, c'est tout l'aspect un peu émotionnel, en fait, de George Sand qu'on explore, sa vie un peu romantique, toutes ces choses-là. Donc, il y a un côté très intimiste.
Ouais.
D'accord.
En tout cas, oui, ça donne envie. Alors, moi, ma deuxième pièce dont je vais vous parler... Là encore, j'ai la chance qu'on ait eu. Alors, on l'a pas eu la personne dans les studios parce que c'est un peu compliqué et en plus il était en répétition. Si je te dis Patrick, tu me dis quoi, Chloé?
Préjean.
Patrick Préjean.
Préjean. Quand je dis Patrick, vous dites Préjean.
Donc oui, on a eu Patrick Préjean qui a bien voulu au téléphone répondre et puis parler de la pièce Tsunami. Cette fameuse pièce qui donne envie, hein, Chloé?
Ah oui, oui, complètement. Moi, j'ai encore des étoiles dans les yeux. Merci pour cette rencontre, Vanessa. Même si c'était téléphonique, c'est vrai qu'il nous a beaucoup touchés toutes les deux.
Oui, moi je confirme, il nous a beaucoup touchés. D'ailleurs, vous allez l'entendre dans l'interview. Bonjour, je crois qu'on a quelqu'un d'assez exceptionnel aujourd'hui, Chloé.
Oui, hein? oui, j'avais hâte d'être à aujourd'hui pour le rencontrer en voix en tout cas.
Et puis dans notre retour 2022 théâtre, on a la chance et l'honneur d'avoir en ligne Patrick Préjean. Bonjour Patrick.
Bonjour, attends, là vous ne le voyez pas là, mais vous me faites rougir.
Oh bah non.
Oh bah si.
Bonjour Patrick.
Comment un grand homme comme vous peut rougir face à une carrière tellement éblouissante et qui nous a bercé tout au long de mon enfance et de mon adolescence et maintenant, aujourd'hui encore?
Bah, vous savez comment on peut rougir, c'est le trac, c'est pareil, j'ai toujours le trac parce que pour moi rien n'est jamais acquis, il suffit d'écouter, de regarder souvent les catastrophes qu'il y a autour de soi avec des gens de grand talent aussi, faut jamais croire qu'on a la couronne et qu'elle restera définitivement coincée sur votre tête, sans quoi on fait des choses de moins en moins bien, on se prend la tête, on se la joue, et ça c'est une catastrophe par rapport à la qualité qu'on cherche.
J'ai un peu l'impression aujourd'hui d'avoir mon papa à côté de moi, parce qu'il était très fan de la collection Les Gendarmes, et je suis très heureuse parce que de parler un petit peu avec vous des gendarmes et des gendarmettes.
Oui, ça a été un moment important dans ma carrière. D'abord la série, cette série mythique qui, moi, me plaisait beaucoup. Et d'un seul coup, d'avoir été appelé par Louis de Funès pour y participer, c'était un petit peu une récompense. Voilà, on allait tourner Les Gendarmes avec de Funès à Saint-Tropez.
Ah, ça devait être incroyable.
Sa légende, ses plages, ses belles filles, etc. etc. Enfin, tout ça, c'est parti un petit peu du domaine du rêve. Et comme je l'ai vécu, ben, je suis un homme chanceux.
Oui, il y a un autre film aussi que j'ai vu dans votre filmographie et qui m'avait marqué quand j'étais en CM2 parce que j'avais un professeur qui était fan de Marcel Pagnol et on avait étudié La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Votre personnage dans ce film est génial et j'ai revu l'extrait du coup.
Ah oui. Dominique, et alors?
Avec ce double, mais ça devait pas être facile à jouer parce qu'il y a vraiment il est censé, pardonnez-moi le mot, mais engueuler la famille qui arrive sur le terrain de ses patrons, de ses maîtres.
Ben oui, il joue le double jeu, là, et ça, c'est très intéressant à jouer. C'est pas facile.
Et oui, ça devait pas être facile, ouais. Moi qui suis comédienne, pas à votre niveau, bien sûr, mais je me dis, waouh, ça, c'est un vrai jeu, parce qu'il y avait, il les engueule en même temps, il leur dit des choses gentilles, et il fait passer deux émotions dans la même scène. C'est très fou, enfin, c'est super.
Mais la tâche était facilitée car on avait un metteur en scène d'une grande humanité et d'une grande générosité vis-à-vis de ses acteurs qui s'appelait Yves Robert et qui était tout à fait dans l'univers de Pagnol. D'ailleurs, plus je vois ce film et plus je relis Pagnol, plus je me rends compte que ce monsieur était un grand bonhomme et un grand philosophe divertissant.
Ouais, c'était vraiment des super... J'ai aussi mon copain qui m'a dit « Mais je l'ai rencontré, Patrick Préjean, quand j'ai dit qu'on allait vous avoir à la radio. » Il m'a dit qu'il vous avait vu à la suite, en 2009, dans « Après l'incendie, Saint-Paul et Sénèque » de Xavier Jaillard, qu'il avait parlé avec vous après le spectacle et tout, et qu'il avait vraiment adoré.
Ça, c'était un spectacle complètement différent, puisque j'abordais pour la première fois de ma vie la grande tragédie théâtrale, pas la tragédie rythmée en vers, mais le sujet était vraiment noir, noir, noir. Et c'était très intéressant pour moi, ce personnage de Saint-Paul. Vous vous rendez compte, l'adjudant Perrin des gendarmes en train de jouer Saint-Paul, le 13e apôtre.
Et oui,
vous voyez les grands écarts que fait faire ce métier.
Mais c'est génial,
magnifique. Que je fais ce métier.
Et que vous arrivez aussi à faire vous, parce que je pense que tous les comédiens et comédiennes ne sont pas capables de jongler avec tout ce panel de jeux, quoi.
Vous savez, moi j'ai choisi d'être. On choisit l'envie, on choisit les perspectives d'une carrière, et le public fait le reste. Je voulais être un peu un décathlonien du métier. Je voulais toucher à tout, à toutes les disciplines et à toutes les émotions possibles. Et ben, justement, j'y suis un peu arrivé, surtout depuis Cyrano de Bergerac, en plus, que personne ne me voyait jouer. Enfin, c'était en 96, 97, 98, et personne ne me voyait là-dedans. Et si vous voulez, ça a été un nouveau levier à ma carrière. Les producteurs, les metteurs en scène, leur confiance a été confortée par cette prestation. Voilà.
Et une discipline aussi, hein, du panel de comédiens où vous excellez, c'est celle du doublage, avec des petits personnages qui nous ont suivis aussi, qui nous ont bercés, comme Sylvestre, Tigrou.
Salut Chloé, comment ça va?
Oh là là!
Parler avec des journalistes, c'est ce que les tigres préfèrent.
Ah, trop bien, mais je m'en souvenir à vie, là, ce moment. Merci Vanessa de m'avoir permis ça. Merci Patrick.
Vous me parliez d'après l'incendie, qui mettait en scène Sénèque et Saint-Paul, et vous me parlez aussi des personnages de dessins animés. Mmh. Il m'est arrivé certainement une des anecdotes les plus savoureuses de mon métier, là. Rétrospectivement, parce que pendant, c'était assez redoutable. Nous jouions donc au petit théâtre Héberto. C'était un dimanche après-midi. Et vous voyez, Saint-Paul et Sénèque, c'est pas une bluette. Hein. Ça se passe dans la prison à Rome, entre le serviteur de Néron et Saint-Paul qui a été arrêté. Donc le rideau se lève, Sénèque entre dans la prison. Et moi, j'avais encore pas dit un mot. Hein. J'étais assis d'une façon extatique en train de regarder le Seigneur à la petite lucarne de ma geôle. Et il m'adresse la parole. Donc, je lui réponds. Et j'entends au milieu de la salle, « Oh, c'est Tigrou !» Non, mais vous vous rendez compte?
C'est improbable. Trop drôle.
C'est totalement improbable. Ça me fait rigoler. C'est une des plus belles anecdotes du métier, mais sur le coup, je vous laisse imaginer.
Oui, ça, c'est un peu perturbant quand on est dans une émotion particulière et puis on nous fait sortir. Ah oui,
c'est la détresse totale.
Au secours, sortez les rames.
Alors,
C'est ce qu'on dit souvent, quand les petites anecdotes comme ça font qu'on s'en souvient aussi de ces moments-là. Et même si sur le moment, c'était des moments difficiles, on parle de ça dans d'autres domaines de la vie. Quand on passe des passages difficiles, on s'en souvient. On tombe en panne, on est coincé dans le métro. Parfois, ça nous procure des rencontres, des choses.
Mais des c'est tellement agréable pas prévu. Que ça arrive, c'est parce que c'est tellement agréable à raconter que ça devient forcément presque aussi agréable à raconter que de subir lorsque c'est arrivé.
Ah oui, c'est vraiment drôle. Voilà.
Alors, il y a une pièce quand même qui est en tournée, qui a fait la tournée 2022 et qui est aussi en 2023, oui. C'est Tsunami.
Oui, oui, oui.
Avec un sacré casting, hein, Marie-Christine Adam, Géraldine Lapalus, Ludovic Bertillot et Richard Hervé.
Oui, 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 oui. Une très, très, très belle équipe. Vous savez, la tournée, c'est le moment souvent où l'équipe se forge le plus parce qu'on reste carrément 24 heures sur 24 ensemble. Et on voyage ensemble, on joue ensemble, on mange ensemble, le reste, ça ne vous regarde pas.
On va avoir des potins, Vanessa.
Enfin, voilà, j'ai fait aussi pas mal de tournées, à la découverte d'un public nouveau tous les soirs, c'est très crevant en plus. Hein.
Ah oui, voilà. C'est vrai. Une belle comédie, une cavalcade de rebondissements drôlissimes.
Oui, 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 oui.
Jusqu'à un dénouement qu'on n'attend pas du tout, qui est assez fou.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant à porter ça, justement, d'amener les gens jusqu'au bout du truc et bam, que ça explose à la fin. Vous l'avez vu, non?
Alors, moi, je ne l'ai pas vu.
Pas encore,
mais,
non.
Non, j'attends. Si, alors, en fait, ils sont venus à Toulouse, à l'Onyx, à Plaisance-du-Touche. Voilà.
J'ai un très bon souvenir de Plaisance-du-Touche.
J'ai deux amis qui ont été le voir parce que j'ai dit, non, je ne peux pas. J'étais à Paris à cette période-là. Je me suis dit, pas possible, je vais à Paris. Et je veux voir la pièce. Et en fait, vous êtes à Toulouse.
Eh oui, c'est toujours comme ça.
Non, j'ai eu des retours et les gens ont passé un excellent moment à rire, à être touchés aussi par la complicité qui existe entre vous et Marie-Christine Adam.
Oui, ça marche bien, ça fonctionne bien, très, 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 très bien.
Vous le jouez à Paris du coup en ce moment?
Non.
Non, c'est la tournée là.
Je suis en train de préparer... on fait des lectures d'une pièce extraordinaire qui s'appelle Le goûter des généraux de Boris Vian.
Oh, de Boris Vian, c'est...
Oula, super.
Et ben, je l'ai déjà incarné en plus, Boris Vian, dans un autre spectacle. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il est multifacette lui aussi. Et c'est une pièce qui tombe tellement à pic au milieu de tout ce qui se passe en ce moment. Toutes les horreurs et les saloperies qui se font dans toutes les guerres et tout ça. Il démonte complètement le mécanisme. Et c'est une... Attendez, je ne sais plus ce que je dis là.
Par rapport à Boris.
Le comédien a perdu son texte.
Ça arrive. Pour une fois que ce n'est pas les journalistes qui perdent leur texte.
Ou qui bafouent. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je suis très admirative de ça parce que... Du fait que vous ne vous cantonniez pas à une seule chose et que vous... parce que souvent, on nous met dans quelque chose...
Dans des cases.
Peut-être plus en France, j'en sais rien. Je ne connais pas aux États-Unis tout ça, comment ça se passe. Mais on nous met un peu dans des cases et c'est difficile parfois d'en sortir. Et moi, je suis très admirative de ceux qui en sortent et qui font plein de choses parce que... Parce que j'aime pas quand on se juge, le café théâtre va aller juger le classique va juger un autre. Et moi, je me dis, mais en fait, tout ça, ça forme le métier. Et c'est ce que vous faites,
famille,
vous, et vous en êtes une preuve vivante de ça, qu'on peut faire tout. Et quand on fait ce métier, on n'est pas... On peut, pour moi, il est varié, riche, ce métier. Et si on ne fait pas un peu de tout, on va pas progresser. Enfin, je m'exprime
Exactement.
Peut-être pas très bien.
Donc,
mais...
Que je vous comprends.
Et c'est bon, vous êtes un exemple. Je le dis quand moi je dis que je fais plein de choses ici, ben on me dit des fois oui, mais tu as pas peur quand voilà que tu puisses plus faire ça parce que tu fais ça. Ben, je dis ben non, je m'en fiche. Moi j'assume tout ce que je fais parce que tout ce dans quoi on fait, enfin on travaille, on apprend quelque chose quoi. Tant qu'on apprend quelque chose, il faut le faire. Après si on estime qu'on apprend plus, faut changer bien sûr. Mais voilà. Et du coup bon merci parce que vous êtes un super exemple. Je vous sortirai en exemple dans les prochaines conversations.
Et souvent, une discipline sert une autre discipline. On se sert de ce qu'on trouve dans cette discipline pour améliorer l'autre et ainsi de suite.
Exactement.
Et rebondir en permanence.
Les expériences de la vie même. Voilà, moi, je dis toujours, si vous faites d'autres travails, je donne des cours d'improvisation et je leur dis, mais vos autres métiers, votre métier que vous faites ou vos autres activités sont super riches et enrichissantes pour l'impro.
Oui.
On est cultivé. Plus on fait de choses, plus on est cultivé. Enfin bon, bref.
Oui.
Je m'étale, pardon.
Non, mais je vous en prie.
Mais quel plaisir. Quel moment fabuleux. Là, on vient de passer. On était dans une bulle avec vous, Patrick. Ouais.
Je vous avais entendu faire la tirade de Cyrano de Bergerac avec toutes vos voix. Là, j'avais trop aimé. C'est vrai qu'on a trop envie de vous entendre faire encore gros miner ou.
Où est-ce que vous avez entendu ça?
J'ai vu ça sur YouTube, c'était un interview avec une dame. On voyait pas la dame, on voyait vous. Et vous enchaîniez la tirade avec à chaque fois une voix différente. C'était incroyable. Il y avait la voix de Potiron dans Oui Oui, par exemple. une du père de la famille de la jungle.
Poupette, oui. Oh, poupette. Potiron, c'est charmant, Potiron.
Ah oui, il
est trop drôle. Oui, ma petite Chloé. Oh, fais attention. Et Vanessa. Bonjour, Vanessa.
Ah, bonjour, Potiron. Mais oui, pas là. On n'a pas Brigitte Lecordier, malheureusement. Mais quel duo vous formez. Hein. Moi, je peux un peu faire, Titi.
J'ai regardé si elle n'est pas sous la table.
Oh, j'ai cru voir un rominé.
Un truc un peu comme ça.
Ah, ça, c'est Sylvestre.
Alors, je faisais titi.
Ah, et si j'ai une dernière peut-être question, je ne sais pas si on a le temps. Vous savez, à Toulouse, on commence à essayer de créer un petit peu un microcosme de voix, parce qu'il y a un studio, notamment le studio Elixir, qui essaye de faire des formations de doublage pour qu'on se forme et qu'on puisse un peu avoir des comédiens ici formés. Et ils font venir des intervenants pour ces formations. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous intéresser un jour qu'on vous appelle, Maline?
Pourquoi pas. En plus, j'adore Toulouse et c'est pas pour vous flatter, mais j'ai épousé une Toulousaine. Je connais très bien la ville. Je trouve qu'il y a une ambiance du feu de Dieu ici, qu'il y a une façon de vivre de bon vivant, sympathique, qui me convient très très bien. J'adore son équipe de rugby, j'aime plein de trucs. Je passe souvent d'excellents moments quand je suis dans le coin.
Ah, donc ce serait peut-être une idée, je vais leur en parler, parce qu'ils font venir, il y a Dorothée Gemma qui va venir.
C'est une copine.
Voilà, j'imagine, je me suis dit que vous la connaissiez. Puis pour l'instant, je crois qu'il y a deux intervenantes, mais... Je leur en parlerai parce que je travaille un petit peu avec eux et je voudrais faire la formation doublage. Si vous étiez là, alors là.
Ça y est, on l'a perdu là.
Vous allez réaliser. C'est pas moi qui choisis, c'est pas mon studio, mais je pense qu'eux, ils seraient.
Je suis très cher, vous savez.
J'imagine, j'imagine. Mais c'est pas moi qui paye, c'est la formation. Moi, je paye la formation avec l'AFDAS. Donc voilà. Non, voilà, bon, ben, très bien. Je le mets dans mon oreille.
Pourquoi pas.
Je vais le diffuser.
C'est marrant, ça.
Merci en tout cas, Patrick, d'avoir passé ce moment avec nous. Moi, j'ai les larmes aux yeux, tellement j'ai passé un très bon moment et je suis émue de vous avoir eu à la radio avec nous.
Mais si vous saviez, je vous dis pas ça pour faire un numéro, mais quand je peux toucher les gens comme de cette façon-là, vous pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi comme justification à tout ce que j'ai eu, à l'amour que j'ai pour ce métier et à ce que j'ai voulu faire. Je veux dire, ça fait partie des applaudissements, ça fait partie. Vos mots sont à mettre dans le sac des applaudissements aussi. Tout ça, ça nous, on fait ça. On fait aussi beaucoup ça. Il faut l'avouer. On est fragile. On a envie d'être aimé. On a envie de donner du bonheur, mais on a envie de recevoir. Et quand ce partage se fait, que ce soit le public dans une salle ou le bonheur que vous dites que je peux vous apporter comme ça en vous rappelant des personnages, eh bien moi ça me touche énormément et très sincèrement. Et je vous en remercie.
Merci beaucoup, voilà, c'est
elle m'aime aussi, de voir
je
son...
Je ne peux rien.
De voir son émotion. Mais merci, c'est des paroles de sage, là, j'ai l'impression.
C'est ça. Non, c'est vrai.
Il faudrait un autre personnage.
J'y arrive. Bientôt, je vais encore passer une décennie et j'y arrive.
Il y a des sages à 20 ans, il y a des sages à 50, il y a des sages à 80, il y a des sages à tous âges.
Il y a des vieux cons, il y a des jeunes cons.
Aussi, malheureusement.
Et des vieux formidables, voilà.
Il y a des cons caduques, des cons... On va en faire la chanson. Ah, oui.
Pour se quitter, est-ce que vous voulez bien nous faire un petit au revoir à nos auditeurs en sylvestre?
Ça t'explique au flic. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais parce que je bafouille un petit peu. Là, je suis en train de mettre plein de potillons sur mon portable. Mais salut les auditeurs, salut les auditrices, et vive Toulouse! Je l'apprécie.
Merci beaucoup.
Merci
c'est
beaucoup,
génial.
Patrick. C'était excellent. Merci. Merci pour ce moment. Merci d'avoir accepté.
Au plaisir de se recroiser si je me pointe un jour, si je joue dans le coin ou si...
On viendra vous voir jouer même ailleurs.
Vous avez mes coordonnées, vous venez.
Il n'y a aucun problème. Aucun problème.
Allez,
merci. Au revoir.
Bon après-midi.
À vous aussi. Tu disais, Chloé?
Non, je disais qu'il y avait les larmes qui étaient montées.
Oui,
c'est
vrai.
Toi, d'ailleurs. Mais... Bah, moi, je les avais après en te voyant encore plus, mais...
C'était un bon moment. Après toutes ces émotions, on se fait une deuxième pause musicale.
Oui.
Alors, cette deuxième pause musicale, chérie?
Oui, on va toujours faire quand le théâtre rencontre le cinéma. Mais là, on part plus à Broadway.
Ah oui.
Et on va écouter une chanson extraite, du film Chicago.
Oh, excellent.
Qui est sorti en 2002. Un de mes films préférés.
Super.
J'adore.
J'adore.
C'est parti.
Aussi.
Ladies and gentlemen, the Chicago Theater is proud to announce a first. The first time anywhere there's been an act of this nature. Not only one little lady, but two. You've read about them in the papers, and now here they are. Chicago's own killer dillers, those scintillating sinners, Roxy Hart and Velma Kelly.
You can like the life you're living. You can live the life you like. You can even marry Harry, but mess around with Ike. And that's good, isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it? But nothing stays. In 50 years or so, it's gonna change, you know. But all is heaven. Now what dates?
Okay, you babes of jazz, let's pick up the pace. Let's make the parties longer, let's make the skirts shorter. Let's all go to hell in a fast car and keep it hot. We'll be right back.
Alors on était à Broadway. Là, on était vraiment dedans et tout, on avait envie de danser. C'est ça les filles ? Je crois qu'on était bien là.
Ouais. Ah oui, moi j'adore ce film et les chansons sont super.
C'est vrai qu'elles sont magnifiques. Merci Chérie. Ah, donc ça fait une belle petite programmation. Allez, notre dernière pièce qu'on veut parler.
Notre dernière pièce.
Tiffaine, alors... tu veux nous parler Je vais commencer par Tiffaine.
Première, je l'ai mis en premier parce que voilà, mais elle est à égalité avec elle. C'était Pour Sauniac de Molière, au Théâtre du Pavé, mis en scène par Francis Azéma. Alors le Théâtre du Pavé, j'ai vu beaucoup, mais parce que comme je connais un peu les gens là-bas, forcément. Et en fait, ça m'a redonné envie de voir du Molière parce que j'avais vu une mise en scène du Misanthrope, mais j'avais vraiment pas accroché pour le coup. Mais par contre, là, ils ont réussi à la réactualiser. Ils ont gardé l'esprit de Molière, le côté voilà, bouffon, le côté clownesque. Mais c'est actualisé. Ça se passerait aujourd'hui que c'est, tu pourrais. Et alors, il y a une petite anecdote très, très rigolote là-dessus. C'est que c'est vrai que comme je connais un peu des gens, bah, parmi les comédiens, j'en connais du lycée, en fait. Et donc, il y en avait un qui était parti à Paris. Donc, j'ai retrouvé ce jour-là. Et ce qui était très, très rigolo, c'est qu'il faisait son entrée par le public. Et comme j'étais vraiment du côté du public, bah, on s'est regardé dans les yeux. Et je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Et je pense qu'il s'en est servi dans son interprétation, sur le coup. Bah, ça, c'était vraiment un chouette moment. Mais pour le coup, ouais, cette pièce, ça m'a redonné envie de voir du Molière.
Chouette, bah, attends, ça c'est chouette parce que c'est souvent le Molière qu'on voit au théâtre, quand on va au théâtre avec le collège. Et quand j'ai des retours de gens qui me disent « Ah ouais, non, j'aimais pas le théâtre à cause du collège. »
Ouais.
Du coup là, ben, c'est chouette. Faut emmener les collégiens pour voir cette version-là.
Ouais. D'ailleurs, il y a à Saint-Orens de Gameville, au théâtre, ils organisent des rencontres scolaires et ils font les pièces de Molière.
Avec la compagnie de l'esquisse.
Avec la compagnie de l'esquisse, bien sûr.
Oui.
Que tu connais bien.
Oui, c'est une grande compagnie depuis. Elle est là depuis longtemps. Je crois qu'on y allait, moi, quand j'étais à l'école d'ailleurs.
Oui, ils sont là. Puis il y a un petit Marc dedans.
Et oui, Marc Fallier.
C'est ça. Que tu connais aussi sur d'autres compagnies et d'autres pièces.
Oui, je
d'autres
suis pas mal son travail. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, je vais le voir sur Meurtre sur le Nil vendredi soir.
Ah bah voilà. Oui, c'est vrai, le 27. Ouais. Il me l'a dit. Donc encore une belle pièce. Mais c'est vrai que voilà, il redonne vie à ces pièces et ils ajoutent un soupçon de modernité.
C'est ce qu'il faut arriver à faire, ouais, parce que même ça joue aussi beaucoup dans le travail des comédiens, parce que faut arriver à faire comprendre le texte, parce que c'est des assez, voilà, c'est je sais pas si c'est des Alexandrins, mais je sais que c'est de l'époque. Enfin voilà, ça c'était, ouais, moi j'ai belle surprise.
Ouais. Bah ça donne envie. Alors moi, la dernière pièce dont je vais parler, c'est Journal d'un malentendant et ses malentendus.
Oh.
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non, je ne l'ai pas entendu. J'ai mal entendu.
Non, ça me dit rien.
C'est un seul en scène de Frédéric Deban. Est-ce que Frédéric Deban, ça vous dit quelque chose ?
Je ne le connais pas, non.
Ben,
non.
Moi, j'ai grandi avec lui à la télé, dans une série qui s'appelait Sous le soleil. Et c'était Grégory Lacroix, l'amoureux transi de Laure Olivier.
Ah bah, le alors, rebelle j'ai marin, vu sa tête, c'est obligé.
Le beau rebelle marin et d'une gentillesse incroyable. Oui, d'ailleurs, il y avait David dans Sous le soleil aussi. Je vais vous parler. Alors, en fait, c'est le résumé, c'est 18 décembre 2014, Rio, clap de fin, fête de fin de tournage, une bagarre, une gifle, une bouteille reçue sur la tête. À son réveil, plus rien ne sera plus jamais comme avant, ni pour l'homme, ni pour le comédien. Frédéric Deban se retrouve en proie à une surdité profonde, bilatérale, accompagnée d'un acouphène 24 heures sur 24, de la violence d'un Boeing 747 en phase de décollage. Frédéric Deban nous invite à le suivre dans le dédale de ce monde, de silence en vacarme, dont il est devenu, bien malgré lui, l'otage. Il se donne pour mission, sur scène, de rendre visible ce handicap ô combien invisible.
Ça a l'air beau.
Ouais, ça a l'air. En fait, c'est tout l'enjeu que ça m'évoque, c'est ce truc d'arriver à faire comprendre ce que c'est que de vivre Bah les problèmes d'audition, quoi.
C'est ça. Ouais, et ça lui est arrivé comme ça, d'un coup.
Il est vraiment, lui, malentendant.
Ouais, c'est sa véritable histoire. Hein.
C'est autobiographique.
C'est son histoire à lui, et pendant 5 ans, il a eu ses problèmes, et après, il a eu la possibilité d'avoir un appareil, une opération, et maintenant, il entend.
Oh,
il entend comme toi et moi, et je peux lui reparler, mais avant, tu pouvais même plus l'appeler au téléphone. C'était un calvaire pour lui. C'était serait-ce que le bruit de tout bruit, le bruit du téléphone, le bruit de l'aspirateur, les bruits quotidiens. Enfin, c'était un vacarme.
Ouais, mais les acouphènes, j'en ai pas mal entendu parler autour de moi à cause de AZF, l'explosion
ouais,
atomique
ouais,
d'AZF.
Ouais.
Il y a des gens qui ont eu ça, ouais, après coup.
Et en fait, il est poignant. Poignant parce que comme c'est son histoire, il t'attrape. Moi, au bout de 2 minutes, j'étais déjà en larmes.
Ah oui, j'imagine.
J'étais, mais... En plus, je l'ai vu... Alors, on l'a vu, il était dans un petit théâtre parisien. Il l'a présenté, il rodait la pièce avant Avignon. Il a fait un travail énorme dessus. Il a même fait en sorte que ce soit adapté pour les sourds et muets. Tu te rends compte ? Il a mis en place un seul en scène et qui avec une personne. Donc, s'il y a un coup, il y a le travail dessus pour pouvoir allier ces deux côtés. Et franchement, si un jour vous pouvez voir cette pièce, mais je vous la conseille à 2000% parce que c'est tellement dur ce qu'il a vécu. Et de nous le partager et d'avoir ce courage de le partager et de faire entendre la voix de ces personnes qui eux ne peuvent rien entendre, qui ont ces problèmes,
qu'on oublie.
Enfin, c'est fou quoi.
Ça doit être super. Il le rejoue sur Toulouse ou est-ce que...
Je sais pas s'il va le rejouer sur Toulouse. J'ai pas eu d'écho pour le moment. Je sais qu'il le rejouait sur Paris parce que ça a fait... Ça a super bien fonctionné à Avignon. Quand il était à Paris, il devait faire 2-3 mois. Et en fait, ça a été prolongé. Il a fait 6 mois. Et encore, on lui redemande. Donc non, c'est une pièce qui a vraiment touché tout le monde. Et on n'en sort, ressort pas indemne. D'ailleurs, moi, je l'ai disputé parce que Frédéric Deban, il faut savoir que c'est ma toute première interview que j'avais fait en direct, en face à face. Et je m'en souviendrai toute ma vie. En plus, elle était filmée ce jour-là. Donc, je vous raconte pas le délire. C'était très stressant. Et en fait, il m'a mis en confiance. Il m'a... Bon, moi, j'arrivais plus à parler. Hein. C'était un peu lui qui faisait l'interview tout seul. Mais c'était excellent. Je l'ai revu après 3 mois plus tard. Où là, j'ai pu tenir et être professionnelle. Et tout le long, je l'ai suivi. On est resté en contact. Et de voir cette pièce, parce que il donnait plus signe ou autre, et de voir cette pièce, ça m'a fait comprendre tout ce qu'il a vécu, et du fait que même si on pouvait pas être présent, parce qu'il refusait notre présence, il avait besoin de nous, quoi. Et c'est ça aussi, c'est un appel. C'est de montrer que même si les gens te disent « Non, j'ai pas envie de te voir, machin, j'ai un problème », allez les voir, quoi. Allez les voir parce que même si vous êtes silencieux, juste votre présence, ça fait beaucoup.
Ouais, super, ça donne. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir parce que tu donnes vraiment envie.
Ouais. C'est rien que t'entendre, c'est émouvant.
Ah. Ouais.
Allez, Chloé, t'as la primeur, c'est toi qui nous fais ta dernière pièce.
Alors, du coup, c'est moi, c'est une pièce complètement barrée que j'ai vue au Sorano. Ça s'appelait, comme d'ailleurs on a une pièce dans ma compagnie qui s'appelle pareil, on n'a pas du tout fait exprès, on l'avait créée avant de connaître cette pièce-là, ça s'appelle « La vie est une fête » et c'est des chiens de Navarre, une compagnie
oui, les chiens de Navarre.
Assez connue, et je ne l'avais jamais vu en vrai, on m'en parlait tout le temps, on n'arrêtait pas de m'en parler, je savais qu'il y avait des membres des chiens de l'époque qui sont dedans aussi, j'ai vu un film récemment... qui était joué avec eux. Et puis, du coup, j'ai voulu aller les découvrir et j'ai vraiment beaucoup ri. Je vais vous lire quand même le résumé qu'il avait écrit, parce que je le trouve super bien écrit. Alors, c'est « Certes, nous souffrons à cause de papa et maman. Tout le monde ne veut pas être orphelin. Mais nous souffrons aussi à cause de l'état du monde. Nous sommes inévitablement poreux aux violences, aux crises, aux incohérences politiques et sociales, aux transformations brutales de notre civilisation. Les microfolies de notre siècle peuvent engendrer les macrofolies d'une personne et le besoin de consolation peut vite devenir alors impossible à rassasier, comme dirait notre bon vieux Dagerman. Pouvons-nous tous devenir fous? Qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'acte? Il n'y a rien de plus humain que la folie. Le service des urgences psychiatriques est l'un des rares endroits à recevoir quiconque à toute heure, sans exception d'âge, de sexe, de pays. Un lieu de vie extrêmement palpable pour une sortie de route, un sas d'humanité. Et je trouve que ce résumé est super parce qu'il résume vraiment, pour le coup, la folie de ce spectacle-là qui se passe donc dans un hôpital psychiatrique. Mais ouais. Il se passe des choses complètement absurdes dans tous les sens. Et une des images qui m'a marqué quand on va sur le site des Chiens de Navarre, on la voit en photo, c'est qu'il y a un gilet jaune et un CRS qui s'embrassent je trouve pas mes mots, mais vraiment à pleine bouche,
ouais, d'accord.
C'est ce que je veux dire, à un moment donné. Et donc il y a une parodie de vraiment tout ce qu'on vient de vivre, quoi, tous ces trucs de la folie du gouvernement parfois qui nous fait passer pour nous fous alors qu'ils sont encore plus fous que nous. Et donc il y a vraiment ce truc là avec un jeu avec ça rappelait l'histoire des gilets jaunes qui s'étaient réfugiés dans un hôpital justement à un moment donné il y avait
exact.
Un truc comme ça. Et là, c'est le contraire. C'est les CRS qui se réfugient dans l'hôpital. Et puis les gilets jaunes qui leur lancent des trucs, qui leur percent les yeux, qui leur coupent les mains. C'est inversé, en fait. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Bon, c'est rigolo, c'est de l'humour noir. Hein,
oui, bien sûr. Adhérer. Oui, bah les chiens de Navarre, oui, on le sait.
Voilà. Après, il y avait des passages des patients qui se parlent comme ça dans le hall de l'hôpital. Et moi, c'est vrai que c'est un lieu dans lequel j'ai été amenée à passer du temps pour aller voir des amis et des proches. Et j'ai toujours trouvé ça étonnant comme lieu, parce que c'est vrai que quand j'allais voir mes amis, moi j'avais l'impression que mes amis c'était des soignants, parce que il y a toujours on est le fou de quelqu'un d'autre, hein, on est le bizarre, on est tous le bizarre de quelqu'un. Et donc c'est vrai que moi, mes amis qui étaient jugés peut-être bizarres ou dans la vie entre guillemets normale, des gros guillemets, dans ce lieu là moi je les trouvais tout à fait normaux. Donc il y a tout ce truc-là, la normalité, la folie, qu'est-ce qui nous rend fous aussi, cette peur de devenir fou parfois aussi, et qu'est-ce que ça veut dire. Enfin bon, bref, ça m'a remué beaucoup de questions, et à la fois j'ai beaucoup ri, donc j'étais pas angoissée en sortant, quoi.
Humour et réflexion réunis, ça donne vraiment envie, hein.
Voilà, ouais, c'est particulier, mais ils sont très très bons comédiens aussi. Je sais qu'à un moment donné, il y en a un qui joue un start-upper et il est sur les roues là quand je sais plus comment ça s'appelle, c'est comme une espèce de planche avec une roue.
Ah oui.
Et un side walk, je sais plus.
Les nouvelles technologies.
Voilà, pour avancer là, le moyen de transport. Et du coup, il marche, il est avec cet objet-là dans la salle, toute la scène, et il parle avec des mots de start-upper qu'on comprend pas, enfin la plupart d'entre nous ne comprennent pas en tout cas, et c'est hyper rigolo, quoi. On voit un peu la folie de ce monde-là. Donc voilà, c'était mon troisième spectacle.
Ah bah c'est top. Je crois qu'on a on a été gâtés pour 2022. Hein, ça promet, ouais. Aussi pour 2023, je sais, ouais. Qu'il y a plein de choses.
Oui.
Et puis on en reparlera.
Il y a un spectacle que j'attends. Je pense que j'ai déjà été voir il y a 2 ans. J'attends de le revoir parce que je pense que je vais faire un petit show devant sur la comédienne, vraiment. Parce que j'attends ce spectacle, j'attends de le revoir. J'ai pas pu le revoir l'année dernière. Donc là, ouais, complètement.
Bon, ben, chouette.
C'était cool, Chloé, de pouvoir t'avoir, même au téléphone, que tu sois avec nous quand même.
Et d'ailleurs, je vais rejoindre François Orjol, qui est aussi le régisseur de Caroline Estrémo. Je ne sais pas si vous connaissez cette artiste qui était une ancienne infirmière.
Oui.
Et du coup, bah, il m'aide à faire mes bandes-son de mon spectacle.
Bon, bah super. Bah, on te laisse bien préparé. Bah oui, profite. Il faut.
C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il rigole. Voilà. Bon.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Chloé, en tout cas. Merci Vanessa, à toi et merci à toutes les personnes qu'on a pu entendre en interview.
Il y avait David Bricourt, Patrick Préjean.
Bien sûr. Et on a. Il y avait de belles choses en 2022. Ce retour au théâtre post-Covid, c'était vraiment de qualité. Et je pense qu'on a hâte du retour 2023. Moi, j'ai hâte de vos retours, les filles.